suis très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Bonjour, merci de nous choisir. Nous avons encore la force nécessaire, grâce à Dieu, d'être là. Et vous nous écoutez, vous nous suivez alors dans cette émission Club de la Presse. Club de la Presse, alors nous sommes au lundi 1er juillet 2024. Il est 11h sur votre radio. Vous comprenez sans doute que nous sommes dans ce premier numéro de l'émission Club de la Presse pour le compte alors de cette semaine et aussi alors pour ce mois de juillet. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Coco Vitok Betomega est à la mise en onde. Jérôme Dakoucha assure la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takpame, Sky FM à Badou, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Et vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Vous pouvez nous suivre aussi partout dans le monde entier grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi, Uriel Enyang est là. Uriel, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux techniciens de l'autre côté, bonjour à toutes les auditrices, auditeurs de Canal FM. Bonne semaine de travail à tous les Togolais, beaucoup de courage, prompte guérison à tous les malades sur les lits des hôpitaux et nos condoléances à tous ceux qui ont perdu leurs proches.
Et j'espère que toi-même tu vas bien.
Je vais bien, comme j'ai l'habitude de le dire, les petits soucis, ça ne manque pas. Mmh. Soucis sur tous les plans, mais par la grâce de Dieu, on arrive à gérer, on s'en sort.
Tout à fait, c'est l'essentiel, on arrive à gérer. C'est l'essentiel. Et c'est grâce à Dieu que nous arrivons vraiment à gérer tout.
Tout à fait, on arrive à gérer. On fait toujours appel lorsque ça nous dépasse, on fait appel à ceux-là qui peuvent nous venir en aide. Ce n'est pas nécessairement au plan matériel et financier, même pour nous donner des conseils, nous en avons besoin. Pour prier pour nous, nous en avons besoin. On le fait au quotidien pour pouvoir surmonter les difficultés et nous continuerons parce que nous ne sommes pas les seuls êtres à être confrontés aux difficultés.
Tout à fait. Il semble même d'ailleurs que la vie est faite alors de difficultés. N'est-ce pas, Didier Assogba?
Bonjour Pascal, bonjour aux auditrices, auditeurs de Canal FM. Bonjour à tous ceux qui nous suivent un peu partout, oui, sur le territoire togolais. Et oui, la vie est faite de difficultés. D'ailleurs, même, ce sont ces difficultés-là qui forgent la personnalité même de l'être humain que nous sommes, qui forgent l'homme. L'homme avec grand H en nous, qu'on soit du sexe féminin ou du sexe masculin, j'oublie, je laisse ceux qui se définiront autrement à se définir eux-mêmes, mais c'est des difficultés de tous les jours qui forgent cette personnalité en nous, cet être humain en nous, qui est capable de faire preuve de résilience dans la vie, dans la nature. Vous savez, la nature même est faite de difficultés. On a des, voilà, pour mettre les routes, c'est des difficultés parce que c'est des difficultés qui ont appelé finalement à imaginer des solutions pour véritablement aujourd'hui avoir un léger, on va dire, un semblant de facilité dans la vie parce que les premiers hommes, nos ancêtres, nos aïeux ont fait face aux difficultés et on trouvait des solutions sur lesquelles nous capitalisons aujourd'hui, mais nous aussi nous faisons face à des difficultés pour lesquelles nous devons naturellement trouver des solutions pour les générations à venir.
Justement, alors nous attendons Jacques Dakouti hein, qui doit nous rejoindre incessamment et aussi Elie Goka, je sais sûrement qu'ils sont en route alors pour nous rejoindre. Mais Uriel, je ne sais pas si vous avez constaté que nous sommes équipés même d'ailleurs d'une nouvelle caméra, une caméra rotative, hein, et, puisque nous sommes dans la nouvelle génération.
Je l'ai constaté parce que je suis le premier à arriver sur ce plateau, donc je l'ai constaté avant Didier. Félicitations au directeur général de Canal FM. Nous attendons que vous nous fournissiez assez d'explications là-dessus.
Comment ça?
Oui, il y a caméra dans caméra. Bon, nous ne savons pas quel est le rôle principal de cette
c'est une caméra rotative cette fois-ci, puisque ça veut dire tout simplement que ça peut tourner dans tous les sens et non seulement cela, mais l'image aussi devient tellement nette et puisque c'est une caméra 4K.
D'accord, là, c'est une très bonne chose, c'est pour améliorer les services de la radio, c'est pour avancer. Donc, on ne peut que saluer le premier responsable et vous qui êtes ses collaborateurs. Que Dieu vous accorde davantage les moyens pour avancer du jour au lendemain, pour améliorer vos services pour le bien des auditeurs. C'est tout ce qu'on peut dire.
C'est très important. Alors, disiez, oui, vous voyez cela, je pense quand même que c'est appréciable, hein.
Oui, naturellement, vous savez, toute initiative qui tend à faire évoluer le fonctionnement de nos médias, de la radio, c'est à saluer et à s'équiper de caméras de nouvelle génération avec des résolutions 4K, c'est pas donné à n'importe qui, n'importe quelle structure, et cela relève d'abord de la volonté de la direction de la radio de toujours faire mieux, de toujours adapter le fonctionnement de la radio aux réalités actuelles et aux besoins de tous les jours, notamment des auditeurs qui veulent, en même temps qu'ils écoutent les émissions à la radio, regarder un peu ce qui se fait en studio. Félicitations donc à la direction de Canal FM et à toute l'équipe d'ailleurs. Et donc, beaucoup de courage. Je crois que ça rentre dans le sens de l'amélioration des conditions de la visibilité même et de l'image même que le DG et son équipe veulent donner à la radio.
Ah, tout à fait. Je pense même d'ailleurs que tous ceux qui nous suivent sur YouTube doivent constater déjà que l'image a tourné. Enfin, l'image est maintenant de qualité. Au-delà même d'ailleurs de cela, vous pouvez, on peut facilement zoomer même d'ailleurs sur la personne qui parle. S'il y a quelqu'un qui intervient directement, on zoome sur lui on le voit plus clairement. On l'identifie alors plus clairement. Alors, chers confrères, nous allons commencer cette émission avec ce premier sujet qu'évoque ce matin le journal Le Correcteur, et c'est la question alors de la drogue. La question de la drogue, le journal écrit déjà à la page 5 alors de bien sûr que féminisation de la consommation des drogues au Togo, pourquoi le ministère de la Santé doit parer au plus pressé. Alors, Uriel, quand on lit l'article, j'ai pris le temps nécessaire alors de lire l'article. Ce que j'ai compris, c'est que aujourd'hui, c'est vrai, nous avons un cliché, c'est que quand on parle de la consommation de la drogue, on pense tout simplement que c'est plutôt le sexe masculin qui consomme plus alors la drogue, surtout les jeunes. Mais on arrive à comprendre tout simplement que cette fois-ci, le sexe féminin aussi rentre dans la danse et on retrouve plus de personnes quand même de sexe féminin qui consomment la drogue.
Bon, je ne sais pas s'il y a déjà eu une évaluation faite par le ministère de la Santé ou bien le ministère de la Sécurité ou bien bon, de l'Environnement. En tout cas, tous les ministères qui doivent s'impliquer dans la lutte contre la consommation de la drogue, je ne sais pas si une évaluation dans ce sens a été déjà faite pour estimer que la drogue s'oriente plus aujourd'hui vers le genre féminin. De toutes les façons, je sais quand même que les autorités chaque année font de leur mieux pour réduire considérablement la consommation de la drogue. D'ailleurs, ce n'est même pas au Togo seulement. C'est une lutte commune, c'est une lutte planétaire, puisque la drogue a des effets néfastes sur l'organisme. Et qui dit consommation de la drogue dit en même temps prolifération de maladies, dit la mort, parle de tout. Donc, aujourd'hui, si les gens ont évalué, ont mené des enquêtes, ont investigué et ont trouvé que de plus en plus, la gente féminine entre dans la danse, là, l'inquiétude va grandir. L'inquiétude va grandir parce que ce que genre masculin faisait après consommation de la drogue, ça veut dire qu'aujourd'hui, les deux genres vont se mettre sur la même route. Là, ça devient de plus en plus grave. Si l'homme, en erreur, a la chance d'être sauvé par la femme et qu'un jour on constate que les deux consomment de la drogue, vous voyez à quel niveau le risque est élevé. Là, ça doit inquiéter. Moi, personnellement, je n'ai pas encore les résultats d'une évaluation pareille, mais si un confrère l'écrit, c'est qu'il a des preuves, c'est qu'il s'est ressourcé suffisamment et ça doit nous inquiéter. Maintenant, je ne sais pas si les autorités ont limité juste à la célébration de la journée de lutte contre la drogue ou bien d'autres initiatives vont se multiplier pour que on puisse réduire. Je parle bien de réduire parce qu'aujourd'hui, vraiment, il est difficile de parler de la fin de la consommation de la drogue. Vivement que d'autres initiatives viennent appuyer ce qui existait déjà pour qu'on réduise considérablement la consommation de la drogue. Vous savez, le plus souvent, il faut associer beaucoup de personnes. Lorsque dans les églises, les pasteurs prêchent en évoquant les conséquences de la consommation de la drogue, lorsque dans les mosquées, les imams prêchent dans ce sens, lorsque dans les marchés, lorsque dans ces sites, tout le monde prêche dans ce sens que ça pourra avoir un petit effet. Mais laisser les autorités à elles seules pour se résumer à des petites conférences de presse et aux communiqués qui en font cas lors des conseils ministres, je pense que l'effet ne sera pas majeur. Donc il faut associer tout le monde et montrer à chacun les conséquences de la consommation de la drogue pour qu'on puisse l'éviter aussi.
Disais, aujourd'hui, le constat est fait que, alors, il y a d'autres paramètres de la consommation de la drogue aujourd'hui où on voit des séances, même d'ailleurs, de chicha que les jeunes filles organisent. Et il y a des jeunes garçons aussi, bien sûr, hein, organisent alors dans la capitale et on voit et cela. Mais et ça doit inquiéter.
Mais naturellement, ça doit inquiéter les autorités, d'accord, mais inquiéter d'abord les familles, les parents que nous sommes, de ce que nos enfants, garçons comme filles, aujourd'hui sont exposés à cette forme de consommation de drogue. Même quand on dit que c'est chicha, certains veulent pas qu'on l'accepte, qu'on l'appelle de la drogue, mais c'est de la drogue qui est en train de détruire la vie des enfants. Et il faut que véritablement nous nous inquiétons. Et donc, je pense que, comme Uriel le dit, un premier niveau de responsabilité revient d'abord aux parents que nous sommes, dans nos familles, de contrôler justement les fréquentations de nos enfants et les compagnies pour voir est-ce que les enfants vont dans des clubs ou dans des compagnies où ils font des séances de consommation de la chicha. Des fois même c'est au vu au su des parents, hein, c'est devant un certain nombre de maisons que vous voyez ces agglutinations là autour de la chicha, ils se partagent donc la clope. Et je pense fondamentalement qu'il faut que à tous les niveaux chacun puisse considérer cela comme un danger de social aujourd'hui et qu'on lui véritablement compte, que certains ne considèrent pas que consommer de la chicha, acheter une clope où les enfants se partagent pour consommer de la chicha devant la maison ou autour de la maison ou dans le quartier, c'est le luxe ou quelque chose. C'est pas le luxe, ça détruit plutôt la vie de ces enfants-là. Et qui commence par consommer de la chicha va aller prendre peut-être la chambre un dia demain, pourquoi pas s'injecter de la cocaïne ensuite. Et je pense que ça va crescendo, la dépendance, les addictions à ces produits psychotropes-là, et ça va crescendo, et au final, on ne peut plus rien faire pour ces enfants-là. Et donc, il faut naturellement que, sur cette question de la drogue, chacun à son niveau s'inquiète, et chacun à son niveau protège ses enfants ou sa famille du mieux qu'il peut, pour que au final, ça soit toute la société qui arrive. Et je pense que c'est vrai que la sensibilisation ne doit pas être une sensibilisation annuelle, comme on l'observe malheureusement, en dehors de quelques organisations qui travaillent continuellement dans ce domaine-là. Au niveau étatique, on voit que peut-être c'est une sensibilisation annuelle où le sujet n'est évoqué que peut-être chaque jour de chaque année, et ce qui ne devrait pas être normalement le cas. Il faut à chaque occasion, à chaque instant, parler, sensibiliser les jeunes et leur expliquer le danger que constitue aujourd'hui la consommation de la drogue, quelle que soit la drogue dont il s'agit. Et même on parle des accidents de la route, il y a également des effets de la drogue. Avec ces produits Tramadol ou d'autres choses encore, et il paraît même, selon une dernière sortie du ministre de la Sécurité, il paraît même que la drogue a également des tentacules jusqu'à chez les terroristes aujourd'hui. Et donc je pense fondamentalement que cette question de la drogue doit être une question prise au sérieux où on en parle pratiquement à chaque occasion pour éviter que les jeunes ne s'y adonnent.
D'accord. Jacques Diakouti, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs et auditrices de Canal FM. Je voudrais présenter mes excuses pour ce retard.
Et puisque ce n'est pas dans votre...
Oui, justement. Donc... saluer les uns et les autres. Et je voudrais passer par Canal FM une fois encore pour présenter les condoléances les plus attristées à la famille de notre confrère Antarou Alassani, que nous avons inhumé le samedi passé. Uriel était là avec les confrères. Il y avait les Tchagnao et puis les Abiy Alpha et Sam Djobo et autres. Nous étions ensemble au niveau de la mosquée. Après, ils sont allés pour l'enterrement au cimetière musulman d'Adetikopé. Je voudrais une fois encore passer par ce canal pour présenter mes condoléances les plus attristées à son épouse et à ses enfants. Et remercier également un ministre de la République du Togo ici qui a vraiment soutenu le confrère. Donc je ne voulais pas donner le nom de ce ministre. Et lui-même se connaît et la famille également connaît ce ministre. L'argent pouvait ramener la vie de notre confrère, je crois qu'il n'allait pas mourir. Donc, une fois encore, mes condoléances les plus attristées à notre confrère.
Et c'est toute l'émission Club de la Presse et Radio Canal FM qui présente ces condoléances à nos confrères, bien sûr. Merci. Alors, Jacques, nous sommes en train de parler de la question alors de la drogue, de la consommation de la drogue, parce que le journal Le Correcteur en a parlé ce matin, où on voit notre paramètre de la chose aujourd'hui. C'est vrai, j'en parlais tout au début, où on pensait qu'avec le cliché que nous avons, c'est les jeunes garçons, les jeunes gens qui consomment plus alors la drogue, mais finalement, on voit tout simplement que les agentes féminines aussi rentrent dans la danse et en consomment. Ça doit inquiéter, Jacques.
Vous savez, je crois que s'il y a un phénomène aujourd'hui dans notre pays qu'il faut combattre, c'est effectivement la consommation effectivement de la drogue. Et vous voyez que même en milieu scolaire, entre-temps, on criait que à ce niveau également, il y avait des problèmes. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est cette consommation-là s'est généralisée. Ce n'est pas seulement en milieu scolaire. Et vous voyez aujourd'hui comment les gens passent par des subterfuges pour introduire cette drogue-là un peu partout. Vous allez voir aujourd'hui, quand vous prenez par exemple, il y a des biscuits, quand vous les achetez, c'est en forme, effectivement, c'est comme c'est des biscuits, hein. Mais quand vous ouvrez, c'est la drogue qu'on y met dedans et nos enfants en consomment et en raffolent. Et ça crée effectivement des problèmes. Je voudrais inviter une fois encore le ministère de l'Éducation nationale au Togo. Je ne sais pas si le professeur Kokoroko sera reconduit encore à son poste avant la rentrée scolaire, mais il faudrait qu'il puisse redoubler une fois encore d'efforts. Je crois qu'il a toujours fait, il avait fait pendant la rentrée passée où l'interdiction avait été faite de vendre aux alentours effectivement des écoles. Parce que c'est là même le problème. Le problème est à ce niveau. Et aujourd'hui, Didier parlait de quand vous prenez aujourd'hui ceux qui conduisent également les motos. Vous savez, les gens n'ont pas toujours de pire. Les gens ne se reposent pas. À un moment donné, vous savez que le corps humain a besoin de repos. Mais le constat aujourd'hui, c'est que nos émigrants ne se reposent pas. Ils prennent effectivement cette drogue-là qui est, nous connaissons un peu, dont on a parlé souvent l'effet qui est le tramadol, qu'ils consomment aujourd'hui, et ça constitue aujourd'hui une énergie pour eux. Alors que ça crée des problèmes effectivement pour ces consommateurs-là. Donc il faudrait aujourd'hui que, à tous les niveaux, que ce soit dans les églises, que ce soit au niveau des écoles, que ce soit au niveau des marchés, que ce soit au niveau des mosquées, il faut que la sensibilisation soit accentuée. Parce qu'aujourd'hui, la drogue n'épargne aucun secteur aujourd'hui. La drogue est partout. C'est vrai que le ministère de la Sécurité est en train de faire des efforts louables, mais il faudrait qu'à chaque niveau, qu'on puisse effectivement accentuer cette sensibilisation-là. Si on ne le fait pas, nous risquons aujourd'hui d'avoir... Vous allez voir que nous risquons d'avoir un peuple où des jeunes seront un peu excités. Vous posez des questions, vous allez voir aujourd'hui, circuler un peu Pascal. Vous allez voir, petites choses comme ça, les gens, tout de suite là, ils sont énervés. C'est comme s'ils vont vous-même vous agresser. C'est parce que les gens en consomment quelque chose. Donc il faudrait aujourd'hui que la sensibilisation là soit effectivement, qu'on puisse accentuer cette sensibilisation, même au niveau effectivement des gares routières. Parce que ça, c'est un autre phénomène également là-bas. Les gens conduisent toute la nuit, ça coûte de cette drogue, parce qu'ils se disent qu'il faut effectivement avoir effectivement cette force-là, cette énergie, pour pouvoir conduire. Donc je crois que c'est un article qu'on a sorti, un bon article. Et à chaque niveau, il faudrait que cette sensibilisation-là soit redoublée pour que nous puissions effectivement parler à nos enfants, parler à nos frères, à nos sœurs. On a parlé des femmes aujourd'hui également qui en raffolent, qui en consomment. Ce n'est pas faux. Vous allez voir aujourd'hui dans les rues, un peu partout dans les coins, vous allez retrouver des femmes, des sœurs, vous poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Parce que certains, j'ai suivi le témoignage d'une sœur. Vous savez ce qui s'est passé? Au fait, c'est son ami qui l'a invité à la maison. Elle est allée. Et puis, elle n'a pas fumé, hein, Pascal. Elle a dit que c'est l'autre qui fumait. Et quand elle a inhalé un peu l'odeur...
L'odeur, justement,
oui,
la fumée.
Aujourd'hui, si vous la voyez, la famille était obligée de l'amener à Zébé. Parce qu'elle n'a pas fumé. Mais c'est l'autre qui a fumé. À cause de cette fumée-là, aujourd'hui, elle est de l'autre côté. Donc, je crois qu'il faudrait que la sensibilisation soit de mise. Et une fois encore, vous savez, c'est la période des vacances. Les gens reviennent d'un peu partout. Et ces gens-là risquent, une fois encore, de polluer encore l'atmosphère à Lomé. Donc, que la sensibilisation soit de mise un peu partout pour effectivement contrarier ce phénomène-là.
C'est très important. Alors, oui, disait.
Oui, un autre aspect de la chose, c'est également ceux qui fument dans les lieux publics, sur la route, dans la circulation un peu partout, des gens qui fument un peu partout, dans des quartiers, vous voyez, à des niveaux donnés, dans des quartiers le soir, vous voyez, des gens qui se mettent à fumer.
Mais est-ce que ce n'est pas interdit?
Oui, c'est des choses qui sont interdites et normalement, mais est-ce que les autorités font dans la répression de ces questions-là? Je ne veux pas être très xénophobe, moi, mais je vois des gens, d'une certaine catégorie.
Des étrangers?
Oui, des étrangers généralement, qui font des choses chez nous, notamment en matière de consommation de drogue, notamment de fumer la cigarette. Ils fument un peu partout, là, ce qu'ils ne peuvent pas faire chez eux, ils font chez nous ici. Mais vous allez porter plainte, peut-être, vous n'aurez jamais raison. Il faut véritablement que, dans ce sens-là également, quand on veut lutter contre la consommation de la drogue, il faut qu'on réprime sérieusement ceux qui fument dans les lieux publics et pour emmerder tout le monde dans les quartiers, dans les marchés, sur la circulation, vous voyez un certain nombre de personnes. Vous imaginez à peu près de qui peuvent s'agir à bord de voitures qui fument, ils conduisent en désordre à Lomé ici, avec Yves Nargue, tout ça. Il faut naturellement que les forces de défense et de sécurité, ou les forces de sécurité tout simplement, puissent naturellement s'occuper de ces cas-là, parce que nous n'allons pas devenir tous des fumeurs au Togo parce que des gens fument. Il faut naturellement que si des gens veulent fumer, aillent se cacher pour fumer, et ne fume pas un peu partout pour finalement, comme Jacques le dit, que quelqu'un qui n'a pas fumé puisse commencer à développer des maladies liées au tabac parce que quelqu'un d'autre aura fumé tout à côté de lui ou de sa maison ou dans la circulation et qu'il aura inhalé des substances.
Bien, le sujet ou le paramètre qu'évoque Didier, je pense quand même que c'est très important parce qu'il y a aussi les fumeurs passifs qui développent peut-être alors d'autres maladies, enfin des maladies que développent aussi les fumeurs.
C'est vrai que nous ne sommes pas des médecins, mais l'OMS l'a toujours démontré que lorsque vous êtes à côté d'un fumeur, vous êtes plus exposé au danger.
Oui. Vous fumez plus que lui.
Vous fumez. Bref, vous fumez plus que la personne. C'est pourquoi même il est interdit de fumer dans les lieux publics. Ça, c'est reconnu. Sauf que des fois, tu arrives quelque part où tu retrouves quelqu'un en train de fumer. À côté de lui, il y a des gens, mais personne ne dit rien. Lorsque tu parles, on te regarde bizarre. Mais ce sont des dispositions normalement qui doivent même conduire des gens à la police ou en prison. Lorsqu'on sait que la cigarette, je suis assis à côté de quelqu'un qui fume et que son acte va introduire en moi des maladies qui peuvent même entraîner ma mort, là vraiment c'est tellement grave, on ne devrait même pas badiner là-dessus. Aujourd'hui, la cigarette, je ne sais pas, je parle de la cigarette, la drogue en général, je ne sais pas à quel niveau l'OMS classe le danger de la consommation de la drogue, je n'ai pas encore les informations, mais ce qu'on sait que c'est très grave parce que tous les fumeurs, lorsqu'il s'agit d'une petite maladie, on lui pose la question, est-ce que vous, là c'est grave que tes poumons sont endommagés, comment l'appelle-t-on, tes intestins sont endommagés, le cœur est abîmé, tout ça là, le sang est abîmé. Mais ça ne nous ajoute rien. Lorsque, en consommant quelque chose, ça t'apporte du mal, à quoi bon continuer? Il faut arrêter. Moi, par exemple, j'ai retrouvé mon papa qui fumait. Mais là, ce n'est pas Moi, pas fumer, mais c'est pas ce qu'on fume aujourd'hui. Ça, c'est la pipe avec ce qu'on cultive au village. On appelle ça
le tabac.
Mais ce n'est pas parce que le papa fumait que nous, on va fumer. Il a fumé seul jusqu'à vieillir, mourir. Aucun de ses enfants n'a pris une fois la cigarette ou bien la pipe. On n'imite pas quelque chose qui est dangereux. Il ne faut pas s'aventurer là-dessus. Donc, vivement que les autorités sévissent vraiment pour que ça sauve des vies innocentes.
Jacques, il faut assez de répression. Non, puisque et même, il y a même ces interdictions qui sont là, mais qu'on n'applique pas.
Le vrai problème, d'abord, il faut voir les circuits. Les circuits d'entrée de ces stupéfiants dans notre pays, ça passe où? Comment on fait le contrôle? C'est le problème. Je crois qu'aujourd'hui, s'il faut réprimer, c'est une bonne chose. S'il faut interdire, c'est une bonne chose. Mais il faut contrôler le circuit d'entrée. Parce que le Togo ne produit pas, à ce que je sache, la cigarette. Parlant de la drogue, c'est vrai qu'il y a une fabrication qu'on fait également. Mais l'État doit contrôler effectivement les flux d'entrée de cette cigarette et de cette drogue. Parce que ça ne passe pas par l'aéroport, ça doit passer par peut-être les frontières ou peut-être par le port. Donc il faudrait également qu'un contrôle strict soit fait à ce niveau-là. Et renforcer également le comité de lutte contre la drogue dans notre pays. Parce qu'il y a une commission. Il faudrait que cette commission également soit renforcée et que cette commission-là puisse avoir également l'éventail large de pouvoir effectivement aller dans presque tous les secteurs. On a parlé tout à l'heure le fait de ne pas fumer en public dans les lieux au niveau du service, mais les gens le font. Ça, il faut le reconnaître. Les gens le font. Mais je crois qu'aujourd'hui, hormis peut-être cette sensibilisation, il faut que l'État puisse avoir les moyens de contrôler effectivement les flux d'entrée de cette cigarette-là et de cette drogue. Et l'autre aspect, vous savez, Pascal, ce que les jeunes font aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est pour eux, c'est un luxe, quoi. Que vous soyez là aujourd'hui, que vous ne fumez pas la drogue, mais vous êtes de on ne sait pas, de machutuchulem peut-être. Vous voyez, les enfants prennent ça comme si c'est un luxe aujourd'hui. Si vous ne fumez pas, bon, vous n'êtes pas ce que vous êtes. C'est comme là, vous vous rappelez, entre-temps, le style où on mettait les pantalons au niveau des fesses. Si toi, jeune, tu ne le faisais pas, mais on ne t'appelait pas jeune. Vous voyez, donc, c'est-à-dire que la jeunesse aujourd'hui veut toucher toujours à ce qui est interdit. Vous voyez, au fait, c'est ça la jeunesse. Ce qu'on vous interdit là, les gens veulent toujours toucher. Pourquoi on interdit? Pourquoi c'est interdit de le faire? Alors que quand on interdit, c'est parce qu'on a vu que c'est un mal. Si lorsque vous touchez à ce mal, vous aurez des problèmes. Mais les gens aujourd'hui, tout ce qui est interdit là, les gens veulent effectivement essayer. Les gens veulent toucher là pour voir pourquoi c'est interdit. Alors quand vous touchez, ça constitue aujourd'hui un mal pour vous.
Justement, ça constitue un mal pour vous. Alors nous allons quitter le sujet. On rentre alors en politique pour parler de la clôture de la première session ordinaire 2024, de la première législature. Et bien sûr, c'était le vendredi dernier, bien sûr. Il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de journaux, j'allais dire, qui sont revenus sur le sujet ce matin. Il y a Nouvelle Opinion qui titre à sa une « Assemblée nationale, Kodjo a dédié invite les députés à assumer les nouvelles prérogatives ». Il y a aussi Togo Matin qui est revenu sur le sujet. Togo Matin qui titre à sa une « Assemblée nationale, Kodjo a dédié évoque l'époque sans précédent que vit la patrie ». Méga Info, Uriel, vous titrez aussi à la une de votre journal ce matin, Assemblée nationale, Kodjo a dédié ou l'incarnation de la sérénité. Alors, vous avez vu quand même un Kodjo dédié très serein le vendredi dernier, c'était ça?
Il est serein. Il ne dit pas que ceux qui sont autour de lui sont sereins ou bien ceux qui sont à la maison en l'observant sont sereins. Mais le monsieur, depuis que je l'observe dans toutes les situations, il est serein. C'est pourquoi nous, on a opté pour l'angle de la sérénité par rapport à l'homme qui est aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale. Mais vous avez suivi avec nous la prononciation de son discours jusqu'à la fin. On ne sent pas en quelqu'un qui doute sur la mission qui lui a été confiée. On ne sent pas en quelqu'un qui est une autorité qui attend à chaque fois sollicité par-ci, par-là, avant de faire son travail. Il se montre toujours serein. Nous, on le voit toujours serein. C'est pourquoi nous avons titré « Adéguer ou l'incarnation de la sérénité ». Tout ce qu'il a dit, les ambitions, la mission même à atteindre durant les 3 ans à venir, Je pense franchement que si il reste dans cette sérénité, il peut apporter quelque chose de plus. Bon, certains diront peut-être que par rapport au contrôle de l'action de l'État dont il a parlé, puisqu'il dit que ça va se faire maintenant d'une façon autre. Bon, quelqu'un dira peut-être que monsieur n'est plus au gouvernement, donc il connaît très bien ce qui se passe au gouvernement, il peut bien mener ses actions, c'est tout à fait normal. Je pense même que c'est pour toutes ces raisons même, ces raisons qui ont concouru à son élection à la tête de l'Assemblée nationale. Oui. Il a plusieurs fois fait le gouvernement, donc aujourd'hui, il peut contribuer si vraiment nous suivons est sincère. Si ce que nous suivons est sincère, il peut valablement contribuer à relever certains défis, parce qu'il connaît les maladresses, il connaît les insuffisances, il connaît les défauts, il connaît tout ce qui s'est passé au sein du gouvernement. Aujourd'hui, même si les personnes, les têtes changent, le fonctionnement ne va pas changer. Donc, c'est à lui de contribuer pour qu'à la fin de son mandat ou de ses mandats, le peuple togolais puisse dire « Ah, voilà, une législature qui est arrivée et qui a effectivement contrôlé l'action de l'État, qui a interpellé à chaque fois les ministres, et quand un ministre ne réagit pas, qui est revenu, même jusqu'à faire démissionner des ministres. » C'est tout ce que le peuple togolais attend sur ce point-là. Donc, par rapport à la fabrication des lois, ça se faisait depuis, mais vivement que ces lois qui seront fabriquées sous la mandature de M. Adeyé et de ses collaborateurs soient en faveur du peuple togolais. C'est tout ce qu'on attend, pas des lois qui vont contre le peuple togolais, mais des lois en faveur du peuple togolais.
D'accord. Jacques, en suivant le discours alors du président de l'Assemblée nationale, Kodjo Adé, et en le suivant, dans ce propos, finalement, on comprendrait que c'est quelqu'un qui connaît bien, même d'ailleurs, puisqu'il a appelé même d'ailleurs les députés, ses collègues députés, à assumer les nouvelles prérogatives. Ça veut dire qu'il connaît bien les défis.
Ce qui est intéressant avec la présidence de M. Kodjo Adeyé, voilà, vous suivez un peu son parcours. Quelqu'un qui fut, il était d'abord à la douane, après il a pris l'OTR, il quitte l'OTR au ministère du commerce, il quitte le ministère du commerce pour le ministère de l'urbanisme. Donc c'est pour vous dire que c'est quelqu'un qui maîtrise un peu, quoi qu'on dise, les béaba de ce qu'on appelle l'administration. Il a brassé les finances, il est allé vers également ce qu'on appelle la gestion de la chose publique. Donc je pense que si aujourd'hui il y a quelqu'un qui maîtrise un peu les rouages et de la politique et de la chose publique, c'est bien lui. Parce que vous savez, avant qu'il ne soit président de l'Assemblée nationale, il était d'abord il était vice-président de UNIR.
Tout à fait.
Donc c'est pour vous dire qu'il connaît un peu également les rouages sur le domaine politique. Ce qui est intéressant aujourd'hui, Pascal, sur la présidence de M. Kodjo Adeyé, j'ai suivi un peu son discours. Donc le plus important aujourd'hui, comme Uriel le disait tout à l'heure, ce que les Togolais attendent de M. Adeyé, comment pas du contrôle parlementaire, avec c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un an devant nous, où on est entre la 4e et la 5e République, parce que selon une disposition transitoire, il y aura encore un Premier ministre qui va gérer les choses publiques pendant au moins un an, jusqu'au 3 mai 2025, avant que les autres institutions là ne soient mises sur place, pour que on puisse avoir un président de la République, un président du Conseil, un président du Sénat, un président de l'Assemblée nationale, pour contrôler ensemble l'action gouvernementale. Donc je crois que pendant ces un an, c'est-à-dire un an de transition, je ne pense pas qu'on puisse voir un peu l'Assemblée nationale. Peut-être ça serait après les un an, c'est-à-dire qu'à partir où on mettra ensemble les institutions de la République et le contrôle de l'action gouvernementale. Donc je crois, avec ce discours, si vraiment le discours que j'ai suivi, ne soyons pas peut-être dans un groupe politique, parce qu'il y a ce qu'on appelle la réelle politique. Aujourd'hui, on peut faire un bon discours, mais lorsqu'on rentre dans la réelle politique, après, on constate également qu'il y a quand même du béton devant. Mais j'ose croire, comme je l'ai dit, Il a fait un peu la douane, il a fait les ministères avant d'aller à l'Assemblée nationale. J'ose croire qu'il aura effectivement ces bagages-là, il aura également la main libre pour pouvoir interpeller les ministres sur certains sujets et que les ministres répondent. C'est ça aussi l'autre aspect de la chose. On a vu l'Assemblée sortante où on invite des ministres qui entre-temps avaient nargué même l'Assemblée nationale. J'espère que avec l'Assemblée que nous avons, et sous la houlette de M. Koliou Adeje, qu'on ne puisse pas inviter un ministre et que ce ministre-là vienne brancher ses iPads au niveau de l'Assemblée nationale et partir après. Donc je crois qu'aujourd'hui, ça serait vraiment un bon contrôle de l'action gouvernementale. Donc c'est ce que nous, Togolais, nous attendons de ce Parlement, de ce bureau et de l'Assemblée nationale actuelle.
Ah, d'accord. Alors, disiez, finalement, quand on le suit, je veux bien parler alors du président de l'Assemblée nationale, quand on le suit dans son discours, on pourra dire que c'est la personne indiquée pour être à la tête?
Non, que M. Adedie ait des compétences pour occuper le poste de président de l'Assemblée nationale, il n'y a pas de doute là-dessus. Jacques parlait tantôt de son parcours. Quelqu'un qui a fait pratiquement 25 ans à la douane avant de devenir commissaire général de l'OTR, ministre par deux fois avant d'atterrir et finit d'ailleurs même ministre d'État avant d'atterrir finalement à la tête de l'Assemblée nationale, qu'il ait des compétences, de l'expérience pour ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais est-ce qu'il était la seule personne indiquée? Bon, j'étais pas dans les secrets des dieux, mais je savais que dans le Parti Unir, il y avait, on peut pas parler en termes d'ambition, mais il y avait d'autres profils, il y avait assez de profils qui pouvaient occuper la présidence de l'Assemblée nationale. Mais au final, c'est celui qui choisit qui a choisi. Le chef de l'État, qui est le chef du Parti Unir, a décidé de composer avec les personnes qu'il pense pour le moment les plus indiquées, tenant compte certainement de la période et d'autres paramètres dont nous ne maîtrisons pas, pour choisir la personne de M. Koliou Adeje, certainement sur la base de capital confiance qu'il a en lui et de leur relation à eux. Et donc, oui, ça, on ne peut pas épiloguer longtemps dessus. Mais parlant même de l'institution, l'institution parlementaire et de ce que l'Assemblée nationale peut apporter, moi je n'attends pas un miracle. Je ne m'attends pas à un miracle. Il n'y en a jamais eu. Donc je n'espère pas que l'Assemblée nationale actuelle puisse faire un miracle. Ce sera d'ailleurs extraordinaire.
Rien ne va changer.
Fondamentalement, qu'est-ce qui peut changer dans le fonctionnement du pays avec...
Sois optimiste.
Non, je ne suis pas pessimiste non plus. Je suis juste réaliste. Je suis réaliste en disant que faut pas attendre non plus grand-chose de cette Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale fait quoi finalement? Elle vote les lois, elle contrôle l'action gouvernementale. Ça s'arrêtera là. Même quand on dira que dans la constitution de la 5e République, l'Assemblée nationale a beaucoup plus de poids et tout ça.
Tout à fait.
Il n'y a que la dimension de grands électeurs qu'on confère aux députés aujourd'hui et qu'ils vont élire. Enfin, oui, ils vont élire seulement le président de la République ensemble avec les sénateurs. Le président du Conseil, il est désigné. Et on informe l'Assemblée nationale de sa désignation. C'est-à-dire le parti majoritaire informe le bureau de l'Assemblée nationale.
Puisqu'il n'y aura pas de débat.
Il n'y a pas de débat même, donc c'est juste une information. Et donc ils n'ont pas de poids dans le choix de du président du Conseil.
Mais avec
alors qu'aujourd'hui dans la nouvelle constitution, c'est l'essentiel du pouvoir est concentré si vous voulez au président du Conseil. Et donc c'est le président du Conseil qui dirige en fait, qui est le dirigeant, qui est le chef puissant de l'exécutif. Mais dans son choix, dans sa désignation, l'Assemblée n'a pas mot à dire. L'Assemblée est juste informée et informe la Cour constitutionnelle là-dessus. Et c'est ça s'arrête là. Ils vont juste voter pour le président de la République. Bon, que voilà, certainement qui aura été désigné, ils vont juste entériner. J'estime que ça va être ça. Donc à partir de ce moment-là, Il n'y a pas des choses extraordinaires à attendre de notre Assemblée nationale dans la configuration actuelle ou même dans les autres configurations anciennes. Il n'y avait pas grand-chose à attendre. Ils vont juste voter les lois. Et comme Uriel le dit, qu'on s'attende à ce que, comme le président de l'Assemblée nationale lui-même le dit, que les lois soient claires, claires pour tout le monde, que les lois votées ne donnent pas, ne fassent pas objet d'interprétation au point où on soit obligé à chaque fois de faire appel aux juristes ou aux professeurs de droit d'université pour venir nous expliquer les lois votées par nos parlementaires.
Mais expliquer aussi à leur manière.
Oui, expliquer, oui, à leur manière, justement, parce qu'ils ne sont pas les législateurs. Donc, à partir de ce moment-là, ne nous mettons pas sur des lunes que l'Assemblée nationale va mettre fin à notre souffrance et tout ça. L'Assemblée nationale va seulement voter les lois et contrôler au besoin l'action gouvernementale et ne vous attendez pas à des miracles.
Alors, Uriel, est-ce que vraiment, quand on prend les, par rapport même d'ailleurs à cette nouvelle Assemblée nationale, est-ce que vous attendez quand même quelque chose de cette Assemblée?
Bon, Didier, tu le connais. Bon, je ne sais pas. Il est plus proche de ces gens que moi. Peut-être qu'il a beaucoup d'informations, beaucoup d'indiscrétions. Moi, je me nourrissais d'espoir parce qu'on est on a basculé dans la 5e République. Je me nourrissais de beaucoup d'espoir, surtout sur le contrôle de l'action gouvernementale. Parce que tout le fonctionnement d'un pays repose sur l'action gouvernementale. Alors, si les membres de l'hémicycle n'arrivent pas à contrôler au quotidien cette action-là, c'est que c'est grave. Bon, aujourd'hui, si les gens restent encore pessimistes, on ne peut pas leur donner tort parce que tout le temps qu'on a déjà vécu, tout ce qu'on a eu comme expérience, je pense que c'est tout à fait normal que les gens puissent rester pessimistes par rapport à ce qui va changer ou ce qui ne va pas changer. Mais toutefois, je pense quand même que chaque président de l'Assemblée qui arrive cherchera quand même à faire quelque chose de mieux pour laisser les traces avant de partir. C'est Kodjo Adeyé, à ce temps-là, n'arrive pas à faire quelque chose durant les 3 ans pour marquer son passage, surtout sur le contrôle de l'action gouvernementale. Les lois votées, peu importe, il y a des lois qui sont votées il y a 200 ans qui n'ont jamais servi à quelque chose. Mais si les députés arrivent à vraiment suivre l'action gouvernementale, qu'on n'amène pas un ministre pour justifier pourquoi la route Lomé-Vogan-Foin n'a pas été achevée et que ce ministre dise que dans 3 mois ça sera achevé, qu'il ne revienne plus jamais. Donc, ce n'est pas ce que nous voulons vivre actuellement. Nous voulons vraiment qu'un ministre qui comparaît puisse donner les causes d'une défaillance ou les difficultés auquel il est confronté à faire ceci ou cela. Nous voulons vraiment des choses, même s'il faut même des séances plénières en direct, mais ça serait souhaitable aussi. Je continue de nourrir l'espoir que cette Assemblée-là fera quelque chose pour marquer son pas, puisque c'est la première de la 5e République.
Jacques, vous avez aussi, vous nourrissez aussi cet espoir de voir quelque chose changer avec cette Assemblée nationale.
Bon, je crois que pour ceux qui ont suivi un peu le parcours de Monsieur Messin Agbome Kodjo, qui était président de l'Assemblée nationale, vous vous rappelez que lors de son discours, Agbome Kodjo n'avait pas toujours parlé de l'Assemblée nationale, hein, il parlait toujours de la représentation nationale. C'est ce qu'il disait dans son discours quand il était président de l'Assemblée nationale, pour ceux qui se souviennent un peu du passage de Gabriel Messin Kodjo à Gbeoumé.
Au passage, paix à son
voilà,
âme.
Paix à son âme, justement. Et pour ceux qui ont suivi le discours de Kodjo Adeyé la fois passée, il a également parlé de ça. Il a parlé de la représentation également nationale. Il n'a pas parlé de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là, ils sont l'émanation
de la République.
Voilà, donc c'est ce que moi j'ai retenu, le côté que j'ai retenu de son discours par rapport au discours de Agbome Kodjo quand il fut président de l'Assemblée nationale. Donc c'est pour vous dire que si le monsieur a déjà en tête d'être les représentants, déjà c'est une bonne chose. Mais l'autre aspect que les uns et les autres avaient commencé déjà par soulever, est-ce que monsieur Adeyé aura les coudées par exemple franches? C'est-à-dire que dans une république où on sait qu'il y a un chef d'État, On sait également qu'il y a des super ministres. Est-ce qu'il y aura le coup de France lorsque c'est un super ministre, par exemple, et on l'invite pour venir à l'hémicycle pour s'expliquer. Est-ce que ce ministre-là pourra venir? C'est en ça. Mais j'ose croire que, connaissant un peu M. Adedi, il pourra quand même le faire. Parce que, vous savez, on ne choisit pas un président de l'Assemblée nationale comme ça. On sait que avant que Adedi ne soit président de l'Assemblée nationale, c'est parce qu'il a reçu la bénédiction de quelqu'un.
Et on sait que c'est lui qui fera l'affaire.
Donc, comme il a reçu la bénédiction de quelqu'un, et donc c'est pourquoi il est là-bas. Mais l'autre aspect, je crois que Uriel disait quelque chose tout à l'heure quand il parlait de retransmettre les débats en direct. Mais j'irai même loin. Vous savez, dans certains parlements, par exemple, je crois que c'est au Bénin ou bien au Burkina Faso, ils ont également une radio au sein, par exemple, du parlement. Oui, ils ont une radio. Donc, je crois que il faudrait aujourd'hui que M. Adedi innove. Il faut qu'il innove en ayant par exemple ce média. Le média là sera là pour retransmettre et dire à peu près le fonctionnement de cette représentation nationale. Et il a parlé des débats qu'on doit retransmettre en direct. Vous savez, il faut que le Togo puisse avoir également cette culture. Et d'ailleurs, lorsqu'ils sont par exemple à l'hémicycle, il faut pas seulement utiliser le français. Hein, il faut parler l'évé, il faut parler le cabier, parler le moba, parler
le pour
c'est-à-dire que pour que les gens qui vous écoutent, les gens qui vous suivent, comprennent effectivement le fonctionnement de ce que vous êtes en train de faire. Pour ceux qui ont souvent l'habitude de suivre les interpellations au niveau de l'Assemblée nationale du Burkina ou bien du Sénégal, vous allez voir, les gens viennent, ils parlent wolof. C'est-à-dire que c'est une langue accessible à tout le monde et on sait ce qui se passe. Mais ici, ce que nous constatons, les gens vont, ils parlent un gros français. Finalement, ceux qui ont voté pour eux-mêmes ne comprennent même pas ce pourquoi ils sont là-bas. Donc, je crois qu'il faudrait que M. Koyo Adedi ressuscite ce projet pour voir s'il faut créer une radio au sein de l'Assemblée nationale pour que le bas peuple puisse savoir effectivement ce qui se passe. Ça serait important. S'il peut innover dans ce sens.
D'accord. Disais, c'est vrai qu'on parle alors d'innovation. Ce sont quand même des espoirs que nous nourrissons, bien sûr, hein, pour qu'on voit même autrement cette Assemblée nationale dans son fonctionnement. Mais on sait que déjà avec cette 5e République, il y a aussi des protestataires hein, de cette 5e République. Il y a le Togo Debout, il y a aussi Innovation Internationale. Il y a d'autres organisations de la société civile et aussi des partis politiques qui étaient à Kassimé, tout près de nous, ici à Nkopé, pour manifester à travers un meeting aussi leur contestation face à cette 5e République. Et finalement, ça continue toujours, cette contestation.
Oui, on a tous constaté que la contestation continue. Par rapport à cette nouvelle constitution. Donc, nous avons constaté que là, c'est les organisations de la société civile qui tiennent le haut de pavé en matière de cette contestation-là. Et peu à peu, des partis politiques commencent à s'associer à cette dynamique. Je crois que si nous disons que nous sommes pays démocratique, donc je dirais que... pour être plus objectif, nous sommes un pays en voie de démocratisation. Je dirais que ça s'inscrit dans la dynamique même de la démocratisation ou de la démocratie, où des gens qui ne sont pas d'accord ont également des espaces de liberté pour pouvoir exprimer ce qu'ils ont sur le cœur, et des gens qui continuent d'en appeler à des cadres d'échanges et de discussions pour, je ne sais pas, s'il faut revenir sur la loi ou pour faire évoluer la loi ou la loi constitutionnelle. Donc oui, ces gens ont réussi à tenir leur manifestation hier. C'était plus calme, c'était plus cool, c'était réussi pour les organisateurs. Donc on dira que c'était un échec. Bon, chacun verra regardera dans le verre selon sa manière, à moitié plein ou à moitié vide. Donc je crois que c'est dans l'ordre normal des choses. Donc si pour revenir sur l'institution parlementaire, ce que je disais peut-être, je ne sais pas si j'ai été compris, mais tout ce que nous voudrons, nous, chacun de nous, c'est que des institutions de la République et les pouvoirs, qu'on dit pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, puissent contribuer à un bon fonctionnement de l'État et de la République et au bien-être du Togo. Mais ne nous voilons pas la face et ne perdons pas non plus de vue que nous sommes un pays africain et nous connaissons nos réalités. Nos réalités où on a plutôt des hommes qui sont plus forts et on a souvent la tendance de ce qu'un pouvoir restera toujours plus fort que tout le reste du pouvoir. Si je considère que le pouvoir législatif reste un pouvoir, il fallait laisser les choses se faire. Mais on me disait tantôt dans ce studio que pour être président de ce pouvoir-là, quelqu'un a reçu la bénédiction de quelqu'un qui détenait un autre pouvoir. Donc à partir de ce moment-là, la tendance à ce que le pouvoir dont on a reçu la bénédiction continue d'influencer le pouvoir qui a reçu la bénédiction dans son fonctionnement continue, ne perdons pas de vue. Nous sommes en Afrique, nous sommes Togolais, nous connaissons nos réalités. Donc à partir de ce moment-là, n'oublions pas que nous sommes en face d'une configuration où l'Assemblée est dominée par un parti, nous connaissons le parti, et le maître mot là-bas, c'est la discipline de parti. Et la discipline parti, quelle que sera la bonne volonté de M. Adedie, il voudra certainement faire des choses, mais s'il ne reçoit pas le OK. Si au niveau du parti, on lui dit, mais la discipline, si on met des gens plus huppés que lui dans le parti, dans le gouvernement, et qui, en tant que, il est président d'institution.
Mais finalement, Didier, est-ce qu'on peut comprendre que la discipline du parti va primer sur l'intérêt du peuple?
Je crains fort qu'on soit dans cette configuration et qu'on aille dans ce fonctionnement-là des choses, dont la configuration même du pays actuellement, dans la tête des institutions, à l'Assemblée nationale, vous voyez la domination. On va tendre vers également la même chose au niveau du Sénat. On soit dans une configuration où les considérations beaucoup plus partisanes et de discipline de parti priment sur la réalité et les volontés que vous exprimez là, ici. C'est ce que moi je vois, c'est ma lecture des choses. Mais je souhaiterais être dans le fonctionnement des choses demain que on voit plutôt une Assemblée nationale qui est plus dynamique et qui met des ministres qui se révéleraient auteurs de malversation ou d'autres choses, de mauvaise gestion, les mettre au pilori et pour qu'ils rendent compte devant la République. Moi, je voudrais peut-être que je sois démenti dans ma lecture et
je pense que c'est très fondamental ce que Didier est en train de dire. Là, dans une objectivité catégorique, il faut l'approfondir. Vous savez, lorsqu'un pays fonctionne comme le nôtre, je ne dis pas que notre pays fonctionne mal, lorsque vous n'avez pas de l'opposition et que tout est calé sur un seul parti, là, ce qu'il dit a parfaitement raison, parce que je ne suis pas en train de voir un ministre, bon, membre du parti bien sûr, interpellé sur un sujet grave soit-il ou non, je ne suis pas en train de voir ce ministre être conduit par la justice quelque part, parce qu'il y aura toutes les tractations possibles pour améliorer la situation, pour revoir autrement la situation, puisqu'on dira toujours, bon, vous savez, c'est un grand leader de notre parti, il fait ceci, il fait cela. Ça, je suis parfaitement d'accord.
Donc c'est le risque. Pour t'aider, c'est le risque. Parce même que livrer un ministre comme ça, ou mettre le gouvernement en difficulté, c'est mettre directement le parti en difficulté. Donc à partir de ce moment-là, le fonctionnement là, et vous imaginez qu'on aura quelque chose d'extraordinaire, je voudrais que ça se
vous rappelez au temps de Jerry Tama, une seconde pour terminer, au temps de Jerry Tama, je suis en train de le ramener à l'Assemblée nationale, il y a des ministres qu'on a convoqués à l'Assemblée nationale qui n'ont jamais répondu. C'est ça la crainte. Mis à part ça, moi je suppose que si celui qui est président de l'Assemblée nationale est vraiment fort, qui n'a pas besoin de l'instruction de tel ou de tel pour travailler, ça va marcher, mais il a besoin toujours de l'instruction.
D'accord. Jacques, alors, au vu de ce que les uns et les autres évoquent, on dirait tout simplement que nous avons fait un régime parlementaire à la togolaise.
Non, je crois qu'il a parlé tout à l'heure de la figuration politique, où il disait que bon, c'est comme si quelqu'un a reçu la bénédiction de quelqu'un et autre, comme je l'ai dit. Bon, mais vous savez, Pascal, dans presque toutes les démocraties, Écoutez, regardez par exemple la France. C'est à cause d'une élection que Macron n'a pas pu remporter qu'il a fait quoi ? Il a dissous l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut dire que en ce moment, est-ce qu'il a eu recours, par exemple, à son premier ministre ? Parce qu'entre-temps, on a vu que le premier ministre s'est plaint du fait qu'il il a persécuté l'ensemble du gouvernement et lui-même en tant que premier ministre. Donc, c'est pour vous dire, parler par exemple de la bénédiction de quelqu'un qui l'aurait reçu, c'est vrai. Parce qu'on est au Togo, il ne faut pas qu'on se voie la face. On a vu comment les élections là se sont passées et on sait comment le choix souvent des présidents des institutions ou les nominations dans ce pays, on sait comment ça se passe. C'est-à-dire que Pascal, c'est pas toi qui nomme un ministre, c'est pas toi qui nomme par exemple un président de l'Assemblée nationale, c'est pas toi qui nomme un président d'une institution. C'est toujours une configuration quelque part. Et quand on parle de configuration, on sait ce qu'on met dans la configuration, dans la politique togolaise. On sait. Si aujourd'hui, il y a la volonté de celui qui a eu, par exemple, le sentiment de nommer l'autre comme président de l'Assemblée nationale, et qu'un ministre puisse commettre, par exemple, quelque chose, je vous dis, les pouvoirs seront entre les mains de qui avec la Ve République ? Ça sera entre les mains du président du Conseil, qui va gérer l'ensemble et le fonctionnement du gouvernement. Et si, par exemple, un ministre commet, par exemple, un problème, et on sait la bénédiction que l'autre a reçue par rapport à l'autre, qu'il soit président de l'Assemblée nationale, si l'autre veut qu'on puisse vraiment écouter ce ministre-là, cela va se faire. Mais s'il n'y a pas une bénédiction entre eux, je vous dis que je vous parie que le ministre-là peut tout faire, ça ne passera pas. Le président de l'Assemblée nationale pourra avoir la volonté de pouvoir interpeller, par exemple, ce ministre-là, tant qu'il n'aura pas effectivement les coups de franche, tant que l'étau ne sera pas derré au niveau, effectivement, du conseil des ministres, le président là sera là, il ne pourra rien faire. Donc, la configuration, je suis d'accord avec lui. La bénédiction, c'est vrai. Oui, je suis d'accord, parce que c'est moi qui l'ai dit. S'il n'y a pas ça, je vous dis que ça ne va pas passer.
D'accord, oui, rapidement.
Oui, non, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Jacques, moi, je pense, c'est ce qui est normal, que M. Adeyé a été élu par ses collaborateurs. Quand vous parlez de nomination, là, ça va porter un peu confusion.
Non, il n'a pas élu.
Voilà, donc,
élu. Voilà, moi, je voudrais quand même qu'on s'intéresse aussi à cette question alors de contestation de cette Cinquième République. Mais finalement, Uriel, est-ce que vous avez l'impression que la messe est dite ?
La messe est dite depuis fort longtemps, peut-être, parce que là, contestation. Hier, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. C'est comme après l'élection présidentielle de 2020, tout ce qui s'est passé jusqu'à être étouffé, jusqu'à rentrer dans les oubliettes. Je suis en train de voir aussi cette forme de contestation dans cette logique. Contestation, tout est déjà fait, tout est déjà calé. Je ne sais pas si on ne peut pas faire les choses autrement que de rester dans... Contestation, ça ne sera pas efficace. C'est mon point de vue. Quelqu'un peut démontrer et convaincre le contraire. Mais à mon avis, je pense qu'on peut avancer, je pense qu'on peut faire autrement pour être représenté aussi.
C'est vrai qu'on posait la question hier aux organisateurs par rapport même d'ailleurs à cette contestation, que est-ce qu'aujourd'hui la caravane, la messe n'est pas dite. Ils répondaient que, mais en fait, quand on voit un tout petit peu la situation qui s'est posée tout récemment au Kenya, où c'est avec juste un budget introduit, automatiquement c'est des contestations, c'est tout le peuple alors qui contestait, alors que ce budget, finalement, William Ruto, le président, a fait retirer même d'ailleurs ce budget, et on attendait quand même un scénario comme cela. Est-ce que au Togo pourra se passer aussi?
Non, vous savez, Pascal, il faut qu'on ne se voile pas la face. Vous savez, dans un pays où l'opposition n'existe pas, il faut reconnaître que le parti qui est au pouvoir également ne pourra pas travailler. Parce qu'il faut une opposition qui soit à la veille. C'est-à-dire que quand quelque chose ne marche pas, c'est l'opposition là qui doit toujours tambouriner aux oreilles de ce gouvernement-là pour que le gouvernement puisse travailler. Vous comprenez ? Donc je crois que dans un pays où l'opposition, on a une opposition amorphe, je vous dis que le pouvoir également en place aura des problèmes pour avancer. Parce qu'ils vont se dire, ils n'ont plus d'obstacles. Vous comprenez ? Ils ont un boulevard. Ils peuvent circuler à 100 à l'heure. Il n'y aura plus personne qui puisse faire quoi que ce soit. Alors que c'est vraiment dangereux. Il faut avoir toujours une opposition au sein d'un régime pour pallier effectivement le travail que ce gouvernement est en train de faire et l'opposition qui est là. Parce que une opposition, il faut reconnaître que c'est une opposition qui guide, c'est une opposition qui réveille, c'est une opposition qui est là tout le temps pour rappeler ce qu'il faut faire. C'est comme les médias dans un pays. Vous savez, aujourd'hui au Togo, s'il n'y avait pas ces médias, les radios et avec les débats que nous avons là, il faut reconnaître que nous serons vraiment complètement perdus. Donc je crois que c'est toujours une bonne chose d'avoir une opposition qui est là, qui dit ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Uriel a fait cas, par exemple, de Geritama, qui était, par exemple, à l'Assemblée nationale. Quoi qu'on dise, il était seul, mais de temps en temps, c'est un monsieur quand même qui écrivait, qui interpellait, et c'était bien. Donc je crois qu'il faudrait aujourd'hui travailler.
Et qui donnait d'autres points de vue.
Voilà, hein, donc je crois qu'il faudrait vraiment, il ne faut pas tuer effectivement l'opposition dans un pays. Il faut toujours avoir une opposition qui est là. L'opposition, on sait que ce n'est pas des ennemis du pouvoir, hein, non. Mais c'est une opposition qui est là, qui rappelle tout le temps au gouvernement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne pas faire. Et comment, ensemble, aider le pays à avancer. Mais lorsque vous êtes là, les gens ne font rien. Bon, dites-vous que vous serez là en train de dormir et vous allez prendre du poids. Et lorsque vous prenez du poids, vous savez ce que c'est. Quand vous prenez du poids, donc vous avez des problèmes. Il y a des problèmes cardiaques et autres là qui vont commencer par venir. Et si vous ne savez pas faire, mais c'est des problèmes que vous créez. Donc, je crois qu'il faut une opposition qui fasse chaque matin que vous puissiez faire du sport, hein, pour vous dire que, attention, si je dors un peu, je risque d'avoir des problèmes.
Alors, merci beaucoup, Jacques. Maintenant, nous allons donner la parole aussi à nos auditeurs, hein, qui ont pris le temps nécessaire alors de nous écouter. Et nous allons leur donner aussi la parole de participer à cette émission. C'est sur le 22 21 33 114 91 36 63 75. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et vous comprenez que nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 22 21 33 114 91 36 315. Premier auditeur, allô?
Allô, bonjour.
Bonjour Papa Sordiné, comment vous allez?
Oui. Comme je l'ai dit tout à l'heure là-bas, ceci, j'appuie mon public, qu'on ne le laisse pas. Mais vous savez que le petit pont allant vers la colombe de la paix là-bas, là, malgré qu'il y a un véhicule de la gendarmerie qui est toujours gardé là-bas, les gens qui m'ont toujours là-bas sur le pont, ils passaient, ils ont toujours de la drogue. Et je demande à la personne là, si lui, il était là-bas, qu'est-ce qu'il va faire? Merci.
Merci beaucoup, Papa Sordiné, pour votre intervention. 22, 21, 33, 114, 91. 36, 63, 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez participer au débat de ce matin sur votre radio Canal FM. 22, 21, 33, 114, 91, 36, 63, 75, 91, 36, 63, 75. Autre auditeur, allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, le plateau.
C'est Armand.
C'est Armand, oui.
Voilà, allez-y Armand.
Dans un premier temps, je voulais un peu revenir sur les dégâts de la drogue, les stupéfiants que les uns les autres prennent. Aujourd'hui, avec les problèmes du quotidien, certains pensent que utiliser certaines substances peuvent leur permettre d'accroître leur productivité, mais c'est vraiment un faux problème. Et plus encore concernant et nos amis, les conducteurs de taxi moto, c'est vraiment dangereux. C'est vraiment dangereux. Il va falloir que les organismes qui s'occupent de ce côté-là puissent sensibiliser encore plus. Quand on revient un peu sur les tiraillements que l'opposition, une partie que l'opposition fait contre la nouvelle constitution, mais bon, il y a une incohérence au niveau de l'opposition togolaise, puisque nous tous nous savons que avant les élections, le double scrutin législatif et régional, l'opposition togolaise avait appelé quasiment à un référendum, oui ou non, contre la nouvelle constitution. elle a été laminée. C'était un échec retentissant. Donc aujourd'hui, il va falloir que les gens puissent tirer les conséquences de ce fait. Savoir que non, bon, on a bien dit aux populations ceci, mais bon, à l'arrivée, je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce qu'ils veulent faire. Se lever contre la République.
Merci. Merci beaucoup, Armand, pour votre intervention. 22 21
33 14.
Allô?
Et bonjour.
Oui, bonjour, Basile.
Ah, comment vous allez?
Ça va, et chez vous? Allez-y.
Bon, moi, je vais demander si on est un peu cohérent, comme le président vient de dire. Je pense que c'est lui-même qui n'est pas cohérent. Je vais demander à Jack, qu'est-ce qu'il veut que l'opposition fasse? Bon, celui qui procède en faisant tout par la force, il veut que l'opposition aille aussi dans le sens de la force ou bien c'est comment? Il peut me répondre, ça me plairait. Bon, le truc, on ne peut pas le faire, mais la personne fait ça. Et attend que si tu fais quelque chose, tu vas voir. Bon, c'est ça, il veut que l'opposition réponde comme ça. Moi, je ne sais pas. On appelle à quel référendum? C'est l'opposition qui va appeler au référendum. On dit que pour changer ça, il faut que ça soit par référendum. Il dit non, que lui va faire. Il a fait ça, il est là. Et c'est ça qu'on qualifie. Que la messe est dite. C'est quelle messe qui est dite? Non, il ne faut pas qu'on raisonne comme ça là. Merci.
Merci beaucoup, Basile. 22 21 33 114 91 36 63 75, c'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir au Club de la Presse et réagir alors sur le débat ou les sujets discutés aujourd'hui au Club de la Presse, bien sûr. 22 21 33 114 91 36 63 75 91 36 63 75. Allô.
Bonjour.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Ça va, c'est M. Mahouto.
Oui, M. Mahouto, allez-y.
Salut, le plateau.
Salut,
j'espère. Mon information porte sur la drogue. Le premier drogue maintenant à Lomé, l'heure est grave. Moi, j'interprète directement le ministre de la Sécurité. Il doit faire une véritable répression. Vous voyez maintenant à Lomé, les gens ne cachent plus la drogue. Ce qu'on appelle la coquille là, ça se fait partout. Les gens filment à ciel ouvert. Et dans ces quartiers-là, nous avons nos enfants et nos petits-enfants qui sont dans ces quartiers. Vous voyez comment c'est dangereux? L'heure est grave. Merci, bonne émission.
Merci beaucoup, Mahouto. 22 21 33 114 91 36 63 75, c'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir. Allô?
Allô?
Bonsoir. Allô, bonjour. Bonjour, madame Essi.
Oui.
J'espère que vous allez
bonjour
bien.
Bonjour à vous tous. Et puis, je fais un coucou à Carlos.
D'accord.
Hein, vous voyez que je pense à vous tous. Hein.
Tout à fait.
Carlos, je le demande à Jacques. Il peut le savoir, parce qu'il est président de votre presse, non? Et puis, Ferdinand, tout le reste, je leur dis à tous bonjour. Et puis, bon, Jacques a fait un développement pour parler de l'opposition, tout ça là. On était dans ce pays-là. Vous aviez vilipendé un parti politique. Ils sont libres. Tout le temps, là. Vous avez vilipendé tous ces gens-là qui n'ont jamais collaboré, qui ont plutôt combattu, qui ont été le plus fort de cette dictature. Mais vous les avez combattus plutôt. Et puis voilà, et à la fin, vous nous dites, il n'y a plus d'opposition au bout. Mais c'est tout, hein. À la fin, vous nous dites ça. Maintenant, vous parlez de quelle opposition pour faire quoi? Ils n'ont jamais gouverné. On a visé qu'ils gouvernent, qu'ils viennent pour nous faire du bien, hein, pour nous gouverner humainement. Et les gens ont refusé pour l'argent et le pouvoir. Et vous voulez quoi? Et puis voilà, la drogue, tout ça là, bon, quand on est désivré, les enfants ont perdu leur repère, ils n'ont rien à faire, ils sont devenus des dealers et tout, le pays est détruit par la non-alternance. Il faut que les gens le savent. Il faut alterner dans une république pour que la république décolle, comme en France. Merci.
Merci beaucoup, Madame Issi, pour votre intervention. 22 21 33 114 91 36 63 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir au club de la presse de ce lundi. 22 21 33 114 91 36 63 75 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au club de la presse et réagissez sur les sujets débattus ici au club de la presse de ce lundi. 22 21 33 114 91 36 63 75 91 36 63 75. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Votre nom c'est?
Joe.
Joe.
Oui.
Vous nous appelez de quel quartier?
Agoué.
Agoué. Mmh. Joe, allez-y.
Bon, moi je voulais juste parler de ce qui de Corona. Bon, le problème aussi ça vient de la mer. Ça vient de l'éducation que les parents donnent.
Joe, si vous pouvez aussi un peu la voix, ce serait intéressant.
Oui, je dis, c'est par rapport à l'histoire de drogue qui se répand un peu partout.
Tout à fait.
Et moi, je dis des fois aussi, ça vient de la maison, de l'éducation que certains parents donnent à leurs enfants. Quand vous voyez certains comportements de vos enfants, vous ne voulez pas les serrer. Justement, peut-être. À l'époque, moi, je me rappelle, je peux prendre mon exemple. Moi, j'ai été, pour ne pas dire, enfant de rue. J'ai fréquenté des gens, mais je n'ai jamais touché à la drogue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça dépend de comment ma maison est. Je ne peux pas venir avec ne serait-ce que même odeur de fumée, c'est-à-dire de brûler sur mon corps. Mon papa me tuer. Aujourd'hui, les parents ont délaissé l'éducation de leurs enfants à la maison au profit des enseignants. Voilà que maintenant, ces enseignants, on leur dit, ben, on ne veut pas de châtiment corporel. Les enfants deviennent des bandits. Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Au moins, si tu n'as pas peur de tes parents à la maison, au moins, c'est que l'école peut te redresser. L'école ne veut plus redresser, donc vous voulez. Maintenant, on avait parlé de fait de fumer dans les lieux publics. Je sais qu'il y avait une loi qui interdit ça, mais qui l'applique? Des fois, même quand vous arrivez quelque part, quelqu'un fume à côté de vous, vous demandez à ce monsieur-là, hey, monsieur, s'il vous plaît, ou bien vous êtes là même avant que le gars n'arrive. Il commence pas à fumer, vous lui demandez, monsieur, arrêtez votre cigarette. Ça devient bagarre pour vous. Et je ne vois pas quelle autorité et habilité peut-être à régler cette histoire-là. Parce que la personne va se dire, ben, peut-être qu'il est un, pour ne pas dire, un responsable ou bien quoi que ce soit, donc vous ne pouvez pas le toucher. Si on veut vraiment, parce que la prolifération de la drogue, c'est dans les milieux scolaires maintenant. Ce n'est pas, avant, c'était des bandits qui sont dans les cimetières et autres là. Mais maintenant, c'est venu dans les établissements. Il va falloir que les étudiants commencent pas à retirer les taux. Qu'on donne maintenant, comment la personne, ce droit-là, ou bien pour aux enseignants, aux surveillants, de pouvoir contrôler ses enfants. Si tu as peut-être inséré un peu le châtiment corporel. Sinon, c'est vrai, notre jeunesse va à la dépravation.
Merci beaucoup, Joe, pour votre intervention. 22 21 33 114 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir sur les sujets débattus ici au Club de la Presse. 22 21 33 114 91 36 63 75 91 36 63 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir au Club de la Presse. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur pour le compte alors de cette émission de ce lundi 22 21 33 114. Allô?
Allô?
Oui, allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Pascal.
Oui, votre nom, s'il vous plaît?
Monsieur de Sagbado.
C'est Kossi de Sagbado.
Par rapport à la drogue et à la cigarette en public, je vais demander, est-ce qu'on vous a donné un numéro vers sur lequel on peut appeler si quelqu'un est en train de fumer ou qu'on le suivra?
Pour le moment, non.
D'accord. Il faut que l'État nous donne un numéro. On surprend un chez nous, on surprend un groupe en train de fumer quelque part, qu'on puisse les appeler. C'est pas cette fois seule qu'on peut arriver à éradiquer ce phénomène-là dans notre pays. Il y a des gens qui fument en public. Quand tu le dis, ils ne l'acceptent pas. Un jour, moi et une blanche, on s'est pleuré. On était dans un restaurant, le blanc sort la cigarette et elle commence pas à fumer. Je lui ai dit non, tu ne peux pas fumer comme ça en public. Est-ce que ça peut se passer en France? On a commencé à se chamailler. Je lui ai dit que s'il n'arrête pas de fumer, moi et lui, on va se bagarrer. Je suis prêt que la gendarmerie vienne nous interpeller. Et il a arrêté. Donc, il faut que l'État nous donne un numéro vert sur lequel on peut faire appel aux forces de l'ordre quand quelqu'un, on surprend quelqu'un en train de fumer en public ou bien en train de fumer la drogue quelque part. Merci beaucoup.
D'accord, merci beaucoup, Monsieur Kossi. Je pense que Monsieur Kossi, c'est le dernier auditeur pour le compte de cette émission de ce lundi. Nous revenons en plateau pour cette émission pour faire un dernier tour de table, bien sûr, et clôturer l'émission. Alors, Uriel, vous avez écouté les uns les autres se prononcer. Finalement, la question surtout de la consommation de la drogue a intéressé beaucoup de personnes, puisqu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'auditeurs qui sont revenus alors sur le sujet.
Non, c'est plus qu'intéressant parce qu'aujourd'hui, on remarque que les gens ont abandonné un peu la politique pour s'intéresser à la consommation de la drogue. Je m'intéresse à l'avant-dernier auditeur qui souhaite le retour de l'usage du bâton dans les écoles. Je pense que les gens continuent par se tromper. Celui qui a fabriqué l'avion, celui qui a fabriqué la radio, celui qui a fabriqué tout ce qui existe n'a pas été châtié par le bâton. Vous savez, quand vous êtes élevé dans la violence, aujourd'hui, ceux qui expriment la violence dans la société, la plupart ont été élevés dans la violence. Le bâton n'est pas un instrument de redressement ou bien d'accroissement de l'intelligence de l'enfant. Non. Nous, on n'a pas eu la chance d'être éduqués comme les enfants sont en train de l'être aujourd'hui. Le bâton ne règle rien. Au contraire, quand l'enfant grandit dans cette violence, il y a cette mentalité qui s'ancre en lui et demain lui aussi trouve c'est bon d'utiliser le bâton à l'école. Vous savez, il y a des parents, moi par exemple, tu ne peux pas utiliser, j'ai ma manière d'éduquer mes enfants et ils sont respectueux dans la rue. Ils ne vont pas être éduqués par le bâton à l'école. Non, c'est impossible. Et l'État même, le législateur même a beaucoup réfléchi là-dessus avant d'interdire l'usage du bâton. Le blanc, grâce à qui nous sommes partout, on parle ici, les gens nous entendent depuis les États-Unis d'Amérique. Ces inventeurs-là n'ont pas été éduqués par le bâton. Il faut que les gens abandonnent carrément cette idée-là. S'ils ont des arrière-pensées, là d'accord, si on a du bâton, c'est pour un animal, on utilise le bâton. Ce n'est pas pour un être humain. Donc, ils peuvent utiliser le bâton. Même à la maison, tu utilises le bâton contre ton enfant. S'il est blessé, la police viendra te chercher. Ou bien je mens. La police va te chercher. Ce ne sont pas des animaux.
D'accord. Jacques?
Non, je crois que le plus important, nous incombe, nous, en tant que parents, à revoir effectivement le comportement de nos enfants à la maison. Parce que si les enfants consomment aujourd'hui cette drogue-là, soit c'est au niveau de la rue, à l'école, ou les fréquentations. Donc c'est à nos parents de savoir comment éduquer effectivement l'enfant à la maison. Lorsque ces enfants-là sortent de la maison, qu'ils se comportent de la même façon que vous les éduquez à la maison. Nous avons vu dans ce pays où, lorsque les enfants sortent de la maison pour aller à l'école, ils ont deux tenues. Ils portent une très belle tenue chez leurs parents, mais après avoir quitté la maison, ils abordent une autre tenue pour ce qu'ils veulent. Donc, il faudrait aujourd'hui que cette éducation, là, c'est une éducation entre parents, à l'école et également les amis. Parce que la rue ne peut jamais éduquer votre enfant. Si vous laissez votre enfant à la merci de la rue, ce que vous allez souffrir demain. La drogue là se consomme où? Effectivement, c'est dans ces lieux-là. Donc, plaise à Dieu que les parents et les enseignants et chacun d'entre nous, nous puissions effectivement avoir en idée que nous devons avoir des enfants pour demain, c'est-à-dire la nation de demain. Nous devons éduquer ces enfants-là aujourd'hui pour pouvoir mieux gérer le pays demain.
Didier?
Bon, et sur la question du bâton, je ne serais peut-être pas d'accord avec mon ami Uriel. Parce que moi, je suis un pasteur dans une autre vie. Et donc, moi, ma Bible dit que le bâton corrige l'enfant. Et il dit d'ailleurs, il dit que l'enfant, selon la voie qu'il doit prendre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas.
C'est la
donc,
Bible
qui oui, non, 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 ça, on ne va pas faire ce débat. Mm-hmm. Et donc, chaque parent pourra éduquer son enfant selon la manière dont tu penses pouvoir. Mm-hmm. Si ton enfant écoute ta voix, c'est bon, mais il y a des enfants qui ont besoin quand même d'un peu de bâton. Maintenant, ce que je salue, c'est naturellement que cette fois, les auditeurs ne sont pas revenus également sur les questions politiques. Mmh. C'est vrai que la question de la drogue, là, c'est la preuve que la question de la drogue est un problème de société aujourd'hui.
Tout à fait.
Et il faut véritablement, comme un des auditeurs l'a proposé, que le ministère de la Sécurité puisse mettre à disposition de la population un numéro vert sur lequel, lorsqu'on surprendra un groupe d'enfants en train de fumer de la clope ou autre chose quelque part à la plage où ils ont des friandises de drogue et tout ça, ou encore des gens qui fument dans les lieux publics, qu'on puisse signaler ces choses-là pour qu'on arrête le phénomène, parce que, comme on dit, on ne va pas laisser le Togolais de demain être un Togolais drogué ou qui n'apporte rien à la société et qui est plutôt de la charge pour les parents et pour la République.
Zia Yores, avec vous pour votre carton de fin d'émission.
Je n'ai pas à proprement parler de carton de fin d'émission.
Note plutôt.
De notre, mais je veux juste nous exhorter, naturellement, nous parents, on parle de cette histoire de drogue, on vient d'avoir les résultats de BPC, et on sait que c'est pas de la joie.
Catastrophique.
Oui, c'est catastrophique comme taux de réussite, selon ce qu'on a, même si officiellement au niveau du ministère, on n'a pas encore les vrais chiffres. C'est catastrophique quand même, et il faut véritablement que les parents prennent ce phénomène-là à bras le corps durant ces vacances qui s'annoncent, et qu'on puisse encadrer les enfants pour que l'année prochaine, on puisse avoir un meilleur taux au BPC.
D'accord. Uriel,
alors, la dernière fois, j'avais attribué une mauvaise note au ministère de l'enseignement primaire et secondaire pour n'avoir pas encore supprimé le probatoire. Mais aujourd'hui, je félicite ce ministère pour avoir instruit.
La note d'abord.
La note.
Oui.
Bon, disons 9 sur 10.
D'accord, 9 sur 10.
Là, ça m'a tellement réjoui.
C'est une note objective.
Objective. Si ces résultats venaient à être confirmés, je vous assure que je vais adresser un courrier de félicitations à ces ministères pour avoir instruit à appliquer la vraie correction au BPC. Là, moi, je ne parlerai pas de catastrophe, mais je parlerai plutôt de la logique. Au moins, on a appliqué ce qui doit se faire et voilà les résultats qu'on a obtenus. Ça, franchement, félicitations à ce ministère.
Jacques, votre note de fin de...
Non, je n'ai pas de note, mais invitez le gouvernement, parce que ce que nous constatons aujourd'hui, les plus grands emplois qu'on crée aujourd'hui, c'est au niveau de l'Alonato. J'ai vu que la fois passée, ils ont encore créé l'Onato, quoi, non, matinale. Quand même, matinale. Non, je crois que...
L'auto matinale.
Non, je crois qu'il ne faut pas essayer de créer ces jeux-là. Finalement, vous allez rendre les gens paresseux et vous risquez de créer dans le pays une société de soulard. Parce que la Lonato, quand les gens prennent cet argent-là, souvent ils vont dans les kiosques de Sorabila. Et vous risquez d'avoir des soulards, une société de soulard dans le pays. Donc, je crois qu'il faut créer vraiment de vrais emplois pour aider effectivement nos populations à trouver un emploi, au lieu de laisser tout le temps les gens, jeux cadeaux, l'ONATO, quoi, non, quand même.
D'accord. Merci beaucoup, c'est confrère. Uriel, merci. Jacques, merci à toi. Merci beaucoup, Didier, d'être passé alors dans cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. Jérôme Akouta a assuré la mise en ligne. Moi, je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.